passer au débat. Alors, je vais introduire le débat, si vous voulez bien. Alors, selon la sage réponse d'un banquier suisse, à qui l'on demandait le secret de sa réussite, il répondit : j'ai trois règles. Prudence, prudence, prudence. Nos trois collègues ont insisté à juste titre sur la prudence concernant le diagnostic en psychédélique. Prudence à l'entrée, ne pas se précipiter sur un diagnostic de structure, attendre l'instant de voir dans le transport. Prudence à prendre le temps pour comprendre les moments cruciaux, les moments de passe. Prudence pour ne pas hâter ou éterniser le moment de compris. Mais naturellement, une prudence qui ne doit pas faire bouchon au passage à l'acte analytique. Alors, je vais poser d'abord une question qui n'est pas comme ça, aux trois intervenants, sur le titre du thème de l'année, Actualité de la névrose. Alors, donc il s'agit des névroses actuelles, engendrées par le discours capitaliste et son exigence de parité, soit, mais je pense qu'il s'agit surtout de l'actualité de l'acte analytique et de ses suites comme une cure. Voilà, c'est ce que je vous propose si vous avez des avis différents. Voilà. Et puis après, je poserai une question à chaque intervenant, mais au fur et à mesure. Alors, sur cette première question, comment vous entendez actualité de la vie ?
Alors, actualité, moi, je n'ai pas tellement développé ce qui m'a. Oui, mais dans des moments justement où on se posait la question d'un diagnostic, hein, alors ça n'a rien de particulièrement actuel, ça c'est quelque chose qui est une pratique de l'analyse de tout le temps, je pense, hein, de la prudence, de voir un petit peu ce qui amène le patient, ce qui se noue, Mais alors évidemment, ce qui est tout à fait intéressant chez Bernard, c'est l'utilisation du Borroméen pour voir les erreurs de structure. Hein, mais effectivement, ça ne peut se faire qu'avec un travail à l'intérieur de la cure et dans le transfert. Et donc, c'est difficile de jongler avec ça dès l'abord, je trouve. Ça demande un sacré bout de temps avant qu'on repère quelque chose de l'ordre d'une erreur du nœud. Voilà. Mais effectivement, je trouve que ce qui est tout à fait passionnant, moi, ça, je suis toujours en difficulté avec les nœuds, hein, il n'y a pas de problème. Je m'emmène les pinceaux, je ne sais pas trop faire. Voilà. Je m'y efforce, je travaille.
Bien sûr, je prends des filles.
Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est tout à fait important à l'heure actuelle. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui me semble, dans la souplesse que ça peut montrer, quelque chose qui me semble beaucoup plus adapté aux analysants actuels. Hein? Bon, je ne saurais pas le démontrer, mais il me semble qu'il y a quelque chose là de tout à fait intéressant. Comme l'a montré assez vite. Mais enfin, je ne comprends pas tout.
Alors, ainsi, c'est ce que tu penses. Tu en as parlé de la qualité.
C'est particulier. Bon, juste pour dire à Bernard que Rimbaud déjà jouait avec la couleur des voyelles. Hein. L'actualité, moi, je pense que c'est l'actualité. Tu penses tu parlais de l'acte, l'actualité de l'acte analytique, moi je dirais aussi l'actualité de l'interprétation. Parce que c'est, disons, du côté du diagnostic, enfin l'interprétation peut faire pas mal de choses, enfin, pour avancer ou pour mettre des bâtons dans les roues à l'analysant dans la cure. Donc l'actualité de l'interprétation, c'est. Pour moi aussi, enfin, c'est ce que je voulais un peu montrer, c'est un rapport de l'analyste, disons, à un savoir analytique, bien sûr, mais aussi à, disons, au monde où il vit. Parce qu'il fait des interprétations, enfin, quand on a des ados ou des jeunes qui viennent raconter ce qu'ils lisent ou ce qu'ils écoutent, ou ce qu'ils. C'est pas inintéressant, au contraire, c'est même très important d'en savoir un petit peu, hein, de quoi il raconte pour pouvoir se placer à un endroit où on peut faire une interprétation. c'est dans ce sens-là.
Moi, je ne sais pas. Oui, mais... Moi, je ne situerais pas ça par rapport à l'actualité clinique des névroses, en supposant qu'il y aurait vraiment des tableaux cliniques si différents de ce qu'ils étaient avant. Je pense que c'est plutôt de notre actualité dont il s'agit, c'est-à-dire que si on suit la logique de l'enseignement de Lacan, on ne peut plus concevoir la différence entre névrose, psychose et perversion comme on le faisait avant. Il faut changer. Et pour moi, l'actualité, c'est ça. Alors, c'est sûr que ça a l'air difficile comme ça. Je regrette de ne pas avoir amené mes petits ronds parce que je te montrerai que c'est extrêmement facile. C'est extrêmement facile de s'y repérer. Il faut pas se contenter des dessins parce que les dessins, c'est des mises à plat. Et les mises à plat, elles sont source de plein d'erreurs. J'en ai moi-même fait les frais. Les mises à plat sont source de plein d'erreurs. Par contre, avec le matériel qu'il faut, et bien souple comme il faut, dans l'espace, on voit très bien comment chaque rond est prisonnier par un certain nombre de croisements. En général, il y a deux croisements qui emprisonnent chaque rond. Il y en a un au centre et un à la périphérie. Chaque croisement du centre, il y en a trois, crée que le rond en face va partir. Chaque rond du bas, la même chose, sauf qu'il part vers le bas. Et chose très intéressante sur laquelle j'ai travaillé et j'ai remarqué que Michel Bousséron arrivait au même point, mais par un autre chemin. Si on fait deux erreurs, c'est-à-dire une au centre et une à la périphérie, alors on défait tout. Ce qui correspond, ça, on peut quand même le dire un peu avec un peu d'assurance, au déclenchement de la psychose. C'est quand tout se défait. Donc ça, c'est très intéressant. Il faut deux erreurs pour que tout se défasse. Une seule erreur ne suffit pas. Alors, moi, ce que je repère, c'est que tout ça, je l'apprends de ma clinique, c'est sûr, mais pas uniquement. Je l'apprends aussi du fait que j'écoute très souvent dans mes voyages des cas cliniques, en général, plutôt bien travaillés par des collègues. Et je m'attache à essayer de repérer ça. Dans les contrôles, c'est la même chose qu'il parlait des contrôles. Et c'est là que je m'aperçois, et c'est mon actualité en moi, qu'on a tout intérêt à savoir repérer dans l'ensemble du tableau clinique qu'est-ce qui est de l'ordre d'une connexion pas normale qu'il y a entre symbolique, réel et imaginaire. Et à ce moment-là, la personne qui nous a présenté le cas aussitôt comprend ce qui a été efficace ou des fois ce qui a raté dans son intervention. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que finalement on participe à quelque chose. Alors c'est vrai qu'on n'y participe pas d'une façon aussi massive qu'on y participe dans la psychose ou dans l'autisme, parce que là on y participe vraiment au point par exemple qu'un autiste, moi j'en vois un depuis 40 ans et il tient, mais moi je vais pas tenir. 40 années, ça paraît pas possible, donc je pense que tout peut s'écrouler pour lui. Parce que vraiment, voilà, peut-être pas parce que j'ai la chance qu'il vient me voir avec son éducateur, sa maman, le chef de l'établissement, ils viennent comme ça, le chat, pourquoi pas, ils viennent comme ça de façon rituelle tous les mois, et à chaque fois j'apprends des choses nouvelles, j'essaye de décoder un petit peu. Donc je peux espérer passer le relais comme ça, qu'ils aient compris un petit peu comment ça fonctionne. Mais
Voilà.
Je voulais te poser une question, Bernard, par rapport à l'autisme dont tu parlais. Oui. Et cette possibilité de certains thérapeutes qui imitent comme ça le sujet. Alors, tu dis que, bon, c'est vrai que dans l'autre sens, on conditionne à imiter. Mais alors, quelle différence fais-tu? C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a transfert que ça opère. Parce qu'en fait, les imitations extérieures, comme ça, des rééducations, des robots...
C'est des robots.
C'est parce qu'il n'y a pas de transfert. Alors, est-ce qu'on peut parler de transfert?
Oui, et ça fait très longtemps que je le pense. C'était un des premiers textes que j'ai écrit concernant ma pratique psychanalytique il y a plus de 30 ans. C'était avec un enfant autiste, et où justement, je repérais quelque chose d'un transfert, mais qui était, j'en avais discuté longuement avec Rosine Lefort, qui était purement dans l'imaginaire. Purement dans l'imaginaire. C'est-à-dire, je lui offrait la possibilité, justement, mais ça, c'est, je le comprends maintenant, je lui offrais la possibilité d'une reconnaissance qui ne soit pas symbolique, puisque ça ne sert à rien, mais qui soit imaginaire, et ça fonctionnait pour lui. Il y a un bouquin qui est sorti il y a 2-3 ans, qui est remarquable, c'est un Italien qui a écrit ça, le nom ne me revient pas, mais le titre du bouquin, oui, c'est La solitude des nombres premiers.
Ah oui,
lisez ça, c'est très très bien fait. Et c'est visiblement un auteur italien qui sait ce que c'est que l'autisme et qui raconte une histoire où dans une école, deux autistes se reconnaissent. Ils se collent l'un à l'autre et voilà.
Et vaut mieux.
Hein,
ils vont mieux.
Oui, mais enfin, ils tiennent comme ça. Mais ce qu'on repérait avec... Jean-Pierre Drapier, dans une rencontre qu'on a organisée au Havre au mois de mai dernier, c'est que avant de vouloir, par exemple, inclure l'autiste dans notre monde et le forcer à rentrer dans notre symbolique qui est pour lui destructeur, là c'est le contraire qui se passe. C'est le thérapeute qui rentre dans son monde. C'est-à-dire qui prête quelque chose de son corps avec lequel il va pouvoir l'amener. Et on peut, mais là je ne peux pas le faire sans mes ficelles, on peut montrer comment justement amener une dimension symbolique qui soit pas celle qui fait du mal. Et cette dimension symbolique, c'est simplement une chaîne qui vient d'ailleurs, qui vient du thérapeute, qui prête sa présence, hein, qui va dédoubler le rôle d'imaginaire et amarrer imaginaire au réel, au symbolique, mais comme tu le dis, via le transfert. C'est ça, via le transfert.
Alors, on va peut-être passer la question à la salle, sinon... J'ai trois questions éventuellement pour chacun. Alors on va passer à la question à la salle, effectivement. Alors, le diagnostic, à quoi ça sert par rapport au titre de la soirée, qui est le diagnostic
pourquoi faire.
Alors, il me semble que c'est un glissement qui a tout son intérêt, mais dis-moi ce que t'en penses.
Pourquoi faire et à quoi ça sert?
Oui.
Ben oui, c'est quand même. C'est, pourquoi faire, c'est quand même le but de l'analyse, qui est l'acte analytique. Mm-hmm. Hein. Mais évidemment, c'est pas avec le diagnostic qu'on fait ça, c'est avec l'analyse. Mm-hmm. Hein. Donc à quoi ça sert? Ça nous oriente au début un tout petit peu, puis après c'est à créer au fur et à mesure en fonction de la parole analysante. Hein, je pense pas qu'on puisse...
Si je te pose la question, c'est parce
à quoi tu pensais, toi.
Voilà. C'est parce qu'il y a une question, enfin une petite question provocatrice qu'on rencontre souvent dans les médias, c'est la psychanalyse, ça sert à rien. D'accord, il répondait, oui, ça sert à rien, ça sert à rien. Et ça, quand même, ça donne une autre dimension. C'est pour ça. Alors, vous servir, en tout cas.
Qu'est-ce que ça sert?
Alors, il n'y a pas de messieurs dans la salle? Oui, Marc.
Oui, pardon à Anne et à tous, je vais directement m'adresser à Bernard. Tu as évoqué ces deux citations des Monducs et du symptôme, là, le lieu qui claque, le névrosé. J'aurais aimé que tu développes. Parce que tu c'est effectivement la question. J'ai le sentiment que tu n'as pas poussé ensuite dans ton exposé. Donc si tu peux le faire oralement, ou pour poser la question autrement, pour être un peu moins un peu plus de risque. Lacan pose la question de Joyce, était-il fou? Oui. On peut dire que c'est une façon de ne pas traumatiser son auditoire. Fou est équivalent à psychotique. Et beaucoup, peu de gens doutent quand même, je crois, de la psychose de Joyce. Cela dit, est-ce qu'en utilisant le terme fou, est-ce que Lacan ne sollicite pas autre chose que la psychose? Pour le dire encore autrement, est-ce qu'il n'y a pas une folie du névrosé?
Ça revient à tout le monde est fou.
Ça ne veut pas dire que tout le monde est psychologue. Justement, il n'introduit pas une dimension avec le symptôme.
La police est
fini. Tu réponds dans le micro.
Ouais, je pensais jusqu'à présent que la folie, c'est le délire. Ça différencie des. Éventuellement d'autres psychoses, des psychoses peut-être non déclenchées, de l'autisme, etc. L'autisme, il ne délire pas.
Oui, je pense que c'est très complexe. Hein. Ce que je voulais noter, c'est que c'est très complexe. Parce que dans un premier temps, on est très rassuré, on se dit, bon, ce qui est normal, c'est que s'il y a un rond qui manque, on doit devenir vraiment fou. C'est-à-dire péter les plombs. C'est pas être psychotique, tu as raison. Ça pourrait être aussi ce moment de dépersonnalisation que Lacan décrit dans le schéma optique quand il y a un basculement du miroir plan qui est une orthopédie, hein, qui met de l'ordre dans les choses. Seulement, ça ne suffit pas de répondre comme ça, parce que juste après, il dit, ah oui, mais si vous ne devenez pas vraiment fou, c'est que vous n'êtes pas normal, et c'est que vous êtes névrosé. Donc, on peut... Alors, il le dit d'une façon tellement assurée que ce n'est pas une bévue. Il parle de son expérience. Hein. Il dit, pendant la guerre, mes névrosés, ils étaient increvables. Il faisait des trucs incroyables, alors qu'il y avait vraiment un rond qui leur manquait. Une expérience de guerre, un trauma de guerre, etc. On peut tout à fait le supposer. Bah, c'est ce qu'il dit. Hein. Moi, je le pense. Hein.
Ça serait la phrase du fait de quelque chose qui ne vous concerne pas.
C'est ça.
Ça veut dire quoi, ça?
Eh bien, voilà. Tout est là. C'est-à-dire que la guerre, la oui, situation de traumatisme, oui. C'est comme ça que je le comprends, moi. Et en tout cas, si vous ne devenez pas fou pour autant, il me dit, c'est que les deux autres ronds tiennent ensemble et c'est ça qui veut dire que vous êtes névrosé. Curieusement, il ne reviendra jamais là-dessus. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il récuse ça ou qu'il ne le récuse pas? Je ne le sais pas. Tout ce que je remarque, c'est que si on lit vraiment de très très près le séminaire sur le symptôme, on s'aperçoit qu'il y a deux versions différentes pour Joyce et je ne crois pas que Lacan s'en soit aperçu. C'est-à-dire qu'il nous montre une première version qui est celle qu'on connaît tous, symbolique et réel ensemble, ça parle, c'est l'épiphanie, hein, c'est-à-dire il y a quelque chose du réel de la langue là, qui se met à parasiter, et que Joyce se sent obligé d'insérer ça dans son texte pour arrêter d'en être embêté. Hein. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il envisage que pour les universitaires, pendant 300 ans, ça fasse énigme pour que ça, avec la quatrième, que ça tienne. Je me suis amusé à faire le nœud. Effectivement, si on fait un nœud épiphanique entre réel et symbolique qui sont déjà enchaînés par un troisième, un pseudo-troisième, on peut avoir l'impression qu'on a fait quelque chose de borromère. Mais si vous le faites, et si vous avez les cordes en main, je pourrais vous montrer que ça s'en va. C'est une illusion totale. Par contre, il suffit de rajouter un quatrième pour que ça ne bouge plus. Donc moi, je me dis, à ce moment-là, dans cette version-là, Joyce est stabilisé grâce à son écriture, parce qu'il suppose que ses lecteurs vont pouvoir donner à ça une valeur de sens, qui est pas de lui, hein, et que ça lui donne un ego qui tient, puisque on se dit, voilà, un écrivain génial qui arrive à insérer des phrases de non-sens dans un texte, etc. Mais il y a une autre version, parce qu'à la fin, il nous montre un schéma qui n'est plus du tout un truc à 4, mais qui est un truc à 3. Et si vous cherchez dans le texte, vous allez voir qu'il nous montre un faux trèfle. Alors, il faut savoir ce que c'est qu'un nœud de trèfle. Le nœud de trèfle, c'est le cœur du nœud borroméen. C'est le cœur de la chaîne borroméenne. Une chaîne borroméenne, si vous la raboutez comme il faut, vous tombez sur un nœud de trèfle. Si vous avez fait une bonne chaîne borroméenne, vous obtenez un vrai nœud de trèfle. Et si vous avez fait vos petits raboutages à partir de trois ronds qui étaient posés les uns sur les autres, vous n'obtenez qu'un faux nœud de trèfle. Et à ce moment-là, Lacan dit, c'est là que Joyce corrige l'erreur à l'endroit où elle s'était... Mais quand il dit ça, c'est plus du tout la même erreur. C'est plus du tout la même erreur, c'est autre chose dont il s'agit. Et moi, je ne peux pas trancher pour vous dire...
Je t'embête encore une seconde. Pour plus simple, RSI, quatrième, le nom du Père.
Ouais.
Le séminaire d'après, le nom du Père plus le symptôme.
Oui.
Pour tout le monde.
Oui, pour tout le monde.
Pourquoi le symptôme pour tout le monde? Distinctement du Père.
Parce que justement, on s'aperçoit que le quatrième rond a une fonction. Ça, c'est vraiment dommage, j'ai oublié d'amener mes cordes. Le quatrième rond joue une fonction évidente, c'est qu'il crée une différence entre les trois. Quand on n'a que trois ronds, on ne peut pas décider quel est le rond qui fait le nœud. C'est impossible. Chacun peut faire le nœud. Par contre, si vous mettez 4, vous créez deux paires, et c'est-à-dire qu'il y a deux enchaînements qui sont différents, et on ne peut pas permuter tout. Et les extrêmes ne permutent pas. Les deux extrêmes ne vont pas pouvoir venir au milieu. Ça peut permuter entre 1 et 2, entre 3 et 4, mais entre 1 et 4, certainement pas. Et c'est ça qui dit... ça introduit une nomination, c'est-à-dire ça introduit une spécificité. Or, si ce quatrième mot, c'est un dédoublement du symbolique, on a le symptôme dans sa version nom du Père, si vous voulez. Mais on peut très bien, et c'est ce que j'ai essayé de montrer, on peut très bien faire porter l'erreur du nœud sur autre chose et avoir besoin... non plus de dédoubler le symbolique, mais d'avoir besoin de dédoubler l'imaginaire, c'est ce que je suppose dans l'autisme, ou d'avoir
besoin de dédoubler le réel dans d'autres cas. Et à ce moment-là, ce sont des symptômes, ou des symptômes, je ne sais pas trop la différence, mais qui n'ont pas à voir avec le nom du Père, et qui pourtant occupent exactement la même fonction.
Alors, si vous voulez continuer ce cours très passionnant en topologie, vous pouvez vous inscrire au laboratoire.
Je veux juste ajouter un truc sur le... Enfin, le symptôme est... Le symptôme pour tous à la fin. Il y a des lectures où ça a donné tout le monde délire, tout le monde est fou. C'est une question, enfin, dans certaines interprétations des collègues de l'Acadia, ça donne ça, enfin, le continuisme à propos de, à la fin, le symptôme. Enfin, c'est pas du tout mon avis, mais je pense que, voilà, ça peut donner cette lecture-là.
Juste pour rebondir sur ce que dit Radou, moi je ne pense pas du tout que ce soit strictement équivalent, la névrose et la psychose, mais je pense que c'est en travaillant sur les erreurs qui aboutissent à la psychose qu'on comprend comment fonctionne la structure et qu'on peut peut-être, du coup, être un peu plus original dans notre façon d'accompagner les névrosés.
Alors, Françoise, une dernière question.
Non, c'est pas une question, c'est un joke, comme d'habitude. Oui, c'est de La Fontaine, je voulais dire, la peste. Nous sommes tous malades de la peste. Certains en meurent, d'autres pas. Donc nous sommes tous fous, mais il y en a qui en meurent. Qui se suicide, par exemple, ou voir qu'il tue quelqu'un, comme aujourd'hui, mais tout le monde n'en meurt pas. Donc ça ne doit pas être exactement la même peste. L'important, c'est de savoir qui va en mourir ou pas.
La peste, c'est la psychanalyse. Alors, il y a un mot qui nous attend là-bas.